Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu épisode numéro 241. On est en mai 2022 et c'est un épisode un petit peu particulier, un peu différent, parce que je suis en vadrouille, je suis de passage rapide à Paris et j'ai les enfants dans le studio. Et du coup, bah, je peux pas enregistrer exactement comme je veux, donc c'était compliqué de faire l'émission normale avec les invités. Et pour une fois, pour la première fois depuis peut-être des années, vous allez avoir un épisode avec Patrick seulement, donc ça sera très intime. Hein. Moi, je vais vous susurrer des news gaming à l'oreille et on sera juste, voilà, tous les deux ensemble pour cette aventure de une petite heure pour résumer toute l'actu. J'ai pensé à un moment, je me suis dit bon, les enfants à la maison, je vais aller dans un café. On va faire ambiance parisienne avec un café, le bruit des gens qui discutent en bruit de fond, machin. Et ça, c'est le fantasme. Parce que je me suis rendu compte très vite que, en pratique, c'était pas du tout ça. En pratique, c'était des bruits infernaux qui allaient complètement vous bouffer toute l'émission. Donc, je suis revenu chez moi pendant le court moment où les enfants sont au parc. Et on va enregistrer ça. Alors, c'est pas mon micro habituel, hein, la qualité sera un petit peu moins bonne. Vous avez des bruits de fond. Si je fais comme ça, si je tape sur le clavier, vous allez l'entendre. Mais je vais faire de mon mieux pour que ça vous gêne pas trop. Et puis, bah, on a un programme qui est quand même cool. J'espère que cette émission vous plaira, hein, malgré tout. Et bah, on va se lancer avec beaucoup de news, notamment sur des infos de EA, de Microsoft, des résultats financiers. Donc, comme d'habitude, les résultats financiers, je vais pas vous en faire bouffer des tonnes de chiffres, mais plutôt retenir les éléments intéressants pour chaque société. Et puis, après, on aura une série de petites news, là encore, plutôt intéressantes qu'il ne fallait pas rater. Avant ça, je vais remercier Plif, Calment, Olivier F., Christophe Brasseur et le producteur Claude Girel. Vous le savez, ce sont les gens qu'on applaudit. Comme ça, si vous avez écouté le rendez-vous tech, vous savez que j'ai pas les 10 effets sonores, donc je l'ai fait à la main. Ah, bravo, ouais, bravo les patriotes! Et oui, c'est les patriotes qui soutiennent l'émission, qui ont rejoint le rendez-vous jeu, le Patreon du rendez-vous jeu depuis la semaine dernière, donc un immense merci à eux, un immense merci à Claude, qui fait partie des producteurs, donc on remercie tous les mois, et un immense merci à tous ceux qui contribuent déjà au rendez-vous jeu. Alors, les news de la semaine, les grosses news, bon, je fais le jingle à la bouche. Il y a plusieurs choses que j'ai retenues, mais disons que la news la plus sympa, c'est l'arrivée de Apex Legends mobile. Si vous avez écouté l'after show, si vous faites partie des Patreons et que vous avez des Patriotes et vous avez ce contenu bonus, vous vous souvenez qu'on a beaucoup parlé de jeux mobiles la semaine dernière dans l'after show. Et bah, la semaine prochaine, le 17, très précisément, c'est quoi ? C'est lundi le 17, je crois. Et bah, y a Apex Legends mobile qui arrive. Apex Legends continue son petit bonhomme de chemin. Et il arrive la semaine prochaine, partout, iOS, Android. Ça devrait être un gros lancement. Et il s'inscrit dans cette mouvance des jeux, des vrais jeux, des jeux PC, gamer, console, adaptés au mobile. Et pas juste des jeux casual que les gros développeurs font pour essayer de rentrer dans la hype mobile. Ceci dit, on a quasiment pas vu d'image de Apex Legends mobile, donc on sait pas tout à fait à quoi s'attendre. On aura la réponse on a vu quelques images, je sais qu'il est en test dans certaines régions du monde, mais là c'est le lancement un petit peu partout. Évidemment, c'est pas pour les graphismes qu'on va y aller, mais pour l'accessibilité, où qu'on soit, en vadrouille, comme moi aujourd'hui, par exemple. Entre parenthèses, j'ai été complètement déchiré dans mon cœur parce que je voulais prendre, je me disais, je vais prendre ma Steam Deck, évidemment, enfin mon Steam Deck, comme on dit, mon ou ma, je veux dire mon Steam Deck, mais j'avais déjà la Switch pour le petit, qui est un complètement malade de Mario Kart, Et bah, je me suis dit, je vais pas prendre la Switch et le Steam Deck. C'est arbitraire, hein, le genre des consoles. Enfin, généralement, on dit là, hein, c'est quelqu'un qui dit le Game Boy, moi, je quitte la table immédiatement. Bref, j'ai pas pris mon Steam Deck. J'étais complètement dévasté de pas le prendre parce que c'est pile l'occasion d'utiliser cette machine. Mais ça faisait quand même trop de trucs à prendre. Puis j'avais plus la place. C'est vrai qu'il est volumineux et c'était pile le moment où j'aurais dû. Bon, on verra les prochaines fois. La plus grosse news y est, évidemment, c'est pas Apex Legends, hein, ça c'est le truc qui me parle, mais la plus grosse news y est, c'est la confirmation de l'abandon de la marque FIFA pour leur jeu de foot, hein, FIFA. Depuis 30 ans, il y a le jeu FIFA qui sort quasiment chaque année, je crois. Ils ont pas dû, peut-être qu'au début, il n'y en avait pas un par an, mais là, ça fait un bon moment, et bref. Ce qui s'est passé, semble-t-il, alors on entendait un petit peu des rumeurs, EA préparait le terrain en disant « on n'est pas forcément obligé de travailler avec la FIFA pour notre jeu de foot ». Là, ils ont confirmé que à partir de... Alors, ce n'est pas cette année, hein, ce n'est pas pour le jeu de cette année, mais à partir de 2023, ça sera EA Sports FC, pour Football Club évidemment, et qu'ils n'auront plus le branding FIFA. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas les clubs et les joueurs que les gens aiment, hein, parce qu'on vient, vers ces jeux parce qu'on veut les vrais joueurs, les vrais clubs, etc. Et ils ont des deals séparés de la FIFA avec l'UEFA, la Premier League, etc. Il y a plein de clubs et de joueurs individuels avec lesquels ils ont des contrats. Donc, il y aura toujours ça. Mais par contre, le branding FIFA n'existera plus. Et c'est un petit peu difficile de savoir d'où vient cette rupture, parce que on pourrait se dire c'est EA qui voulait plus payer pour la marque FIFA qui lui apportait peut-être pas énormément. Ça semble pas être exactement le vrai, la réalité de la situation. Il semble que ça soit plutôt du côté de la FIFA qu'on ait commencé à avoir des exigences un petit peu inacceptables. C'est-à-dire que d'après ce qu'on entend, le montant du paiement pour la licence était doublé. Il voulait avoir, alors je crois que c'est de l'ordre, bon, je veux pas dire de bêtises, mais c'est beaucoup. Dans mon impression, c'est genre 150 millions de dollars, enfin un chiffre complètement hallucinant. Il voulait le doubler, mais en plus de ça, il voulait pouvoir utiliser le nom FIFA pour d'autres jeux vidéo. Donc, ça semble un petit peu tellement exigeant que FIFA voulait juste sortir du contrat, quoi. Ça les intéressait plus. Ils voulaient tenter leur chance ailleurs. Et donc, bah, EA s'est dit, on aimerait bien garder FIFA. Moi, c'est ce que je sens, hein. J'ai l'impression qu'ils n'auraient pas été contre l'idée de garder FIFA, mais qu'avec les nouvelles exigences de la FIFA elle-même, eh ben, c'était plus possible. Donc, ils continuent leur jeu de foot avec ce qui reste. Évidemment, ce n'était pas intéressant pour eux de payer tout ça. À noter que pour EA et pour le jeu anciennement formerly known as FIFA, eh ben, on aura toujours tous les mêmes modes. Le FIFA Ultimate Team reste. Enfin, il s'appellera du coup plus FIFA Ultimate Team, mais je ne sais pas, FC Ultimate Team. Donc, ça sera plus FUT, mais FUT. Ça commence à se rapprocher d'autres choses. Donc voilà, c'est la grosse news. Encore une fois, 2022, on garde le branding FIFA, mais 2023, il aura disparu. Le désavantage quand je fais une émission tout seul, c'est que j'ai pas quelqu'un qui va parler, même si je les laisse pas beaucoup parler, les gens, bien sûr. J'ai pas quelqu'un qui va parler et me laisser le temps de boire sans que ça s'entende. Du coup, là, je dois le faire entre les sujets. Autre information hyper importante, c'est bien sûr l'annonce que Fortnite va être disponible sur le Xbox Cloud Gaming et donc disponible sur tous les appareils, dont évidemment iOS, c'est-à-dire iPhone et iPad. Et ça, c'est une news hyper importante, puisque, bon, je ne vais pas vous refaire le résumé, vous le savez, hein, Epic et Apple sont en conflit depuis presque 2 ans maintenant parce que Epic voulait pouvoir utiliser ses propres moyens de paiement sur iOS et ne pas payer les 30% de commission à Apple. En réaction, Apple a sorti toutes les apps Epic de l'App Store, enfin en tout cas Fortnite, ça c'est certain, de l'App Store, et donc il n'est plus possible de jouer comme on le faisait habituellement à Fortnite sur l'App Store, d'autant plus qu'ils n'aiment pas vraiment les apps de streaming, donc c'était compliqué. C'est désormais possible grâce au Xbox Cloud Gaming de Microsoft, qui est inclus dans le Xbox Game Pass niveau Ultimate, donc celui qui est à combien, 13-14 euros par mois. Sauf que, entre parenthèses, il n'y a pas d'app, si vous ne le savez pas, il n'y a pas d'app Xbox Cloud Gaming sur iOS, puisque le streaming est interdit par Apple. Par contre, il est possible de passer par le navigateur, c'est le cas pour d'autres solutions de streaming aussi, il est possible de passer par le navigateur, et c'est la solution qu'utilise Microsoft pour faire du streaming sur iOS, le navigateur étant une plateforme web qui est beaucoup plus ouverte que l'App Store. Le truc qui est particulièrement intéressant là-dessus, c'est que, alors non seulement, bien sûr, Fortnite revient sur iOS, ça c'est massif, mais, et c'est déjà disponible, vous allez sur, je crois que c'est xbox.com/play, un truc du genre, et depuis votre navigateur, vous pouvez jouer à Fortnite en plus des autres jeux du Game Pass si vous êtes abonné. Mais donc, là où c'est hyper intéressant, c'est que, dans le cas de Fortnite, puisque c'est un jeu free-to-play, il y en a peut-être d'autres qui sont dans le Game Pass, mais c'est un jeu free-to-play, on n'a pas besoin d'être abonné au Game Pass. Là, c'est un changement massif par rapport aux autres jeux du Game Pass et du Cloud Gaming. C'est qu'on a juste besoin d'avoir un compte Microsoft, c'est le cas de beaucoup de gens, et puis on peut s'en créer un sinon, mais il faut quand même avoir un compte Microsoft. Mais une fois qu'on a son compte Microsoft, on peut juste aller sur le navigateur, sur xbox.com/play, et même si on n'est pas abonné au Game Pass, on peut jouer à Fortnite. Et donc, ça ouvre le truc, évidemment, à une énorme population de joueurs qui n'y avaient pas forcément accès jusqu'à maintenant. Et ça n'est que le premier d'une série de jeux, a priori, free-to-play, qui devrait être intégré au Game Pass sans besoin d'avoir... je dis qu'il devrait être intégré au Game Pass, c'est pas tout à fait ça. C'est être intégré au Cloud Gaming sans avoir à être abonné au Game Pass, et en particulier au Game Pass Ultimate, qui est le plus cher de tous les abonnements de Microsoft. Donc, c'est vraiment important pour Fortnite et Epic, bien sûr, par rapport à leur conflit avec Apple, mais pour Microsoft aussi, qui est en train d'ouvrir le Game Pass et le public potentiel de son service. Encore une fois, je dis le Game Pass, je pense au Cloud Gaming, qui était jusqu'à maintenant une composante du Game Pass Ultimate, donc qui ouvre le Cloud Gaming, une population beaucoup plus importante. Et on a eu une communication de Microsoft qui a suivi cette première annonce, qui est leur stratégie de Cloud Gaming et de croissance de Cloud Gaming, qui est un petit peu ce qu'ils appellent ça le Xbox Everywhere. Et donc, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils vont étendre le cloud gaming autant qu'ils peuvent, et cette annonce s'accompagne d'une rumeur qui est que dans les 12 prochains mois, on verrait une nouvelle, entre guillemets, console, mais c'est un streaming stick, en quelque sorte, Xbox, qui serait simplement un dongle HDMI, on va dire, auquel pourrait se connecter une manette, on l'imagine, et puis qui pourrait se connecter au Game Pass et streamer tous les jeux du Game Pass. Donc c'est une console de streaming qui serait évidemment très bon marché, on l'imagine à, j'en sais rien, je vais dire 59,99€, un truc comme ça, peut-être même en dessous des 50€, ça serait hyper notable. Alors évidemment, tout le monde le rappelle à chaque fois, oui, il faut une super bonne connexion, mais quand on a une super bonne connexion et pas vraiment d'alternative, ça peut être une solution pour de nombreux joueurs. Et puis c'est une solution de relative simplicité par rapport au PC. Ça reste le Game Pass, même d'après les mots de Phil Spencer, ça reste une solution qui est la solution de rechange, on va dire. Les joueurs assidus, généralement, ils ont une machine pour jouer en local. Ça reste une solution de rechange quand on n'a pas la possibilité de le faire. Et puis, il parle aussi de l'intégration à des télévisions. Ils sont en partenariat avec Samsung pour développer une application pour les télé Samsung, une application Game Pass. Donc voilà, on est vraiment dans une nouvelle étape du Game Pass Cloud Streaming et qui risque d'arriver. Enfin, on peut tout à fait imaginer que demain, le Game Pass inclut, en plus de Fortnite, Apex Legends et d'autres jeux free-to-play de ce type-là qui seraient accessibles sans abonnement, donc qui seraient accessibles depuis le navigateur pour n'importe qui à partir du moment où on a un compte Microsoft. Donc voilà pour cette news que j'ai hâte de voir ce qui va se passer en fait à la conférence Microsoft Bethesda, c'est le 12 je crois, juin, pendant les confs de l'été, parce qu'il est possible qu'ils annoncent des choses et qu'ils annoncent leur, comment ils l'appelleraient, Xbox Series, alors C pour cloud streaming, peut-être. Xbox Series C, c'est juste le truc, ou alors simplement le Xbox Stick. On ne sait pas, on verra. C'est pas que des bonnes nouvelles pour Xbox. Pour une fois, y a, là, depuis quelques mois, c'est que des bonnes nouvelles. Là, il y a eu un truc qui s'est passé le week-end dernier, c'est une panne des services en ligne de Xbox. Et c'était, ça semblait affecter plutôt l'Europe, pas tellement les États-Unis. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme les services en ligne étaient en panne, eh ben, il y avait beaucoup de jeux qui n'étaient pas lançables parce que la console ne pouvait pas se connecter à Internet. Ce qui était un petit peu frustrant, et en particulier pour les jeux Game Pass, parce que on les a téléchargés, a priori. Alors, c'est un petit peu comme... c'est contrairement à ce qui se passe sur PlayStation. Sur PlayStation, on peut lancer la plupart des jeux hors ligne, même si c'est des jeux qu'on a achetés sur le store ou qu'on a téléchargés avec l'abonnement PlayStation Plus. Là, il y avait énormément de jeux qui n'étaient pas lançables et donc ça a ramené la question du est-ce que c'est honnête de faire ces systèmes, de mettre en place ces systèmes où on ne peut pas jouer hors ligne si on n'a pas une connexion Internet, tout est bloqué. Et ça pose aussi la question de la préservation, comme on le dit souvent, du jeu vidéo. Moi, j'ai l'impression que c'est le genre de truc d'expérience, c'est le genre de truc où ça gueule au moment de la panne. Et oui, c'est bien pénible, et c'est des préoccupations pour l'avenir et la préservation. Mais en pratique, les gens gueulent quand ça marche pas, et puis quand ça se remet à marcher, on oublie un petit peu. Donc, je crois que ça va pas non plus être un problème qui va rester. Mais à voir. Puis un petit mot encore sur le Game Pass. Un des développeurs de Trek to Yomi, j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure ou la semaine prochaine, un des développeurs a dit, alors Trek to Yomi c'est un jeu qui était inclus dans le Game Pass il y a une semaine, c'est encore un développeur qui dit, je peux vous garantir que l'argent qu'on a fait sur le Game Pass était bien plus important que les ventes sur PlayStation. On a été bien payé pour être sur le Game Pass et c'était même pas un gros plan marketing où il nous mettait en avant, c'était juste un truc Game Pass tout court et ça nous a beaucoup aidé dans le développement. Alors c'est un jeu indé, hein, mais c'est encore un indice de plus, on commence à y être habitué, sur l'attrait du Game Pass pour les développeurs, surtout indépendants, qui était une question légitime. À ce stade, en tout cas, ça va peut-être changer à l'avenir, c'est encore un indice que les développeurs en sont plutôt contents de ces intégrations au Game Pass et que financièrement, c'est quelque chose qui leur convient. Et ça aide beaucoup au fait de récupérer les frais de développement. Je vais boire un petit coup parce qu'on va s'attaquer à un gros morceau qui est, j'ai perdu l'un des trucs importants je cherche un lien qui était très important, c'est pas grave, on va continuer comme ça, Patrick, c'est pas beau ça, c'était un des éléments importants que je voulais mentionner. Et voilà, je l'ai retrouvé, super, très bien. Donc, de quoi je voulais parler ? Des résultats financiers, en particulier de Sony et Microsoft, mais pas que, d'autres sociétés on a aussi des résultats de Capcom, EA, Bandai Namco, ce genre de boîtes-là. Et comme d'habitude, hein, je ne vais pas vous assommer avec des tonnes de chiffres, je vais surtout parler de ce que je retiens des leçons de ces annonces de résultats financiers. Et la chose que je retiens, alors la chose que tout le monde retient, hein, c'est évidemment le fait que on parlait la semaine dernière du fait que Microsoft se démerdait bien malgré les problèmes de pénurie de puces et que ça semblait affecter leurs ventes moins que les autres et que du coup ils profitaient de ça pour prendre de l'avance sur Sony, au moins sur les derniers trimestres. Et ben, comme on pouvait s'en douter, du coup, c'est le contraire à la fois pour Sony et pour Nintendo, parce qu'ils n'arrivent pas à fabriquer assez de consoles pour satisfaire la demande, on le savait, mais même pour arriver à pour atteindre leurs objectifs et leurs estimations. Et donc, ils ont dû revoir leurs objectifs à la baisse, et ils vendent beaucoup moins de consoles. Alors, beaucoup moins, restons raisonnables, mais ils vendent moins de consoles que non seulement ce qu'ils pourraient, s'ils pouvaient en fabriquer assez, mais ce qu'ils espéraient au début des cycles financiers. En l'occurrence, les ventes de Sony, ça arrive aujourd'hui à 19,3 millions de consoles pour la PlayStation 5. Et c'est un chiffre qui est en dessous de ce qui s'était passé pour la PlayStation 4 au même moment de sa vie. Et ce n'est pas négligeable. On est à 3,1 millions d'unités de moins que la PlayStation 4. Et la demande est en plus beaucoup plus forte. Donc c'est vraiment une occasion manquée pour Sony. Évidemment, ils n'y peuvent rien. Hein. Ce n'est pas de leur faute, cette question de pénurie de composants. Mais clairement, c'est une occasion manquée. Pour les données que nous fournit l'inégalable Oscar Le Maire sur Twitter avec ses flux, ses rapports financiers, il y a un chiffre qui était intéressant. Donc, la PS5, qui avait effectivement fait un énorme démarrage, comme on le disait hein, dans l'émission, ils en vendaient même plus qu'ils ne vendaient de PS4 au début de la vie. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est vrai qu'on ne les trouve pas, mais Sony en fabrique quand même beaucoup et en vend énormément. Et ben aujourd'hui, ils sont en retrait. Si on compare aux autres consoles au même moment de leur vie, comme je le disais, Oscar nous a fait une petite compilation de ces chiffres sur Twitter. La PS5, donc, est à 19,2 millions d'unités. La Wii, alors ça, c'est un petit peu le succès inégalable, mais elle était à 24,5 millions. La PS4 était à 22,5 millions. Donc, comme on le disait, plus de 3 millions au-dessus de la PS5 à ce stade. La Switch à 19,7 millions, donc un peu au-dessus de la PS5, mais quand même, la Switch était un petit peu en dessous de la PS4 hein, à ce stade. Et la 3DS, c'était 19 millions. Et c'est quand même meilleur que la PS3, qui était à 12,7 millions. Alors, ce que je note, c'est que là, c'était une étape qu'il serait possible d'inverser, puisqu'on l'avait vu hein, avec, par exemple, la Switch ou la 3DS, la Switch avait pas trop mal démarré, mais la 3DS avait démarré un petit peu décevante par rapport à la DS, et elle s'est rattrapée depuis, même si elle n'a pas atteint les chiffres records des autres. Mais donc, on pourrait se dire, la PS5, elle va réussir à se rattraper aussi et à refaire des chiffres records. C'est possible, mais la pénurie de puces reste problématique pour une bonne partie de l'industrie. Alors, Sony prévoit de vendre quand même beaucoup plus de consoles la prochaine année fiscale. Je crois qu'ils estiment pouvoir en vendre. Alors, j'ai plus les chiffres là, mais en gros, une dizaine de millions. Donc, ça serait pas mal. Ça serait plus que cette année. Mais ça reste contraint par la pénurie. Ça, on l'a bien compris. Et ça reste tout à fait important dans l'évolution de ce marché, à voir si Microsoft pourra continuer à profiter de cette difficulté de Sony. Je veux parler aussi de Nintendo, un peu plus en longueur que les sociétés qui viendront après. Un petit mot quand même pour mentionner, puisque je parle de Nintendo, qu'il y a eu un Indie World hier, au moment où j'enregistre. C'était pas incroyable, hein, c'était un petit Indie World avec des jeux sympathiques, certains qu'on avait déjà vus, la plupart, certains qui étaient déjà sortis ailleurs. Donc voilà, je vais pas en parler plus que ça, ça vaut pas vraiment le coup. C'était un Indie World, il n'y a pas eu de grosses annonces. Vous pouvez aller le voir si ça vous intéresse. Mais donc, pour en revenir aux résultats financiers de Nintendo... Ah, pardon, j'ai oublié de dire un truc quand même hyper important sur Sony. C'est que malgré les chiffres décevants de vente de la PlayStation 5, eh ben Sony réalise une année quand même record pour les revenus et les bénéfices. Donc, c'est vraiment important à noter et c'est le truc que je voulais mentionner. Même s'ils vendent moins de consoles, alors ils vendent énormément de jeux, et ils réussissent à vendre beaucoup de dématérialisés, on pense aux microtransactions, etc. Et la division de jeux vidéo continue à porter Sony dans son ensemble, et ils se portent très très bien. Donc il ne faut pas penser que parce qu'ils ne vendent pas autant de PS5 qu'ils auraient pu ou qu'ils auraient voulu, ça veut dire que la boîte ne va pas bien. Pas du tout, voire même presque au contraire. Du côté de Nintendo, donc, c'est un petit peu la même formule. Ils n'arrivent pas à vendre autant de consoles qu'ils ne l'auraient voulu. Mais ils continuent à se porter extrêmement bien. Ils ont aussi dû revoir leur nombre de consoles vendues à la baisse par rapport aux estimations. Ils sont affectés par la pénurie. Mais bah, tout va très bien, ils font beaucoup d'argent et ils espèrent eux aussi, comme Sony, pouvoir en fabriquer plus pour l'année prochaine, plus que ce qu'ils n'ont fait aujourd'hui. On en parlait la semaine dernière, c'était ils espéraient en vendre 20 millions pour la sixième année de vie de la console. Et le truc que je voulais mentionner, là encore, Oscar fait toujours des analyses intéressantes, c'est... un regard sur la différence entre l'époque où Nintendo avait deux consoles et maintenant qu'ils n'en ont plus qu'une. Et on peut se poser la question, on peut se poser la question de savoir si bah, le fait d'avoir deux consoles, on pense bien, enfin, quand on dit deux consoles, c'est une console de salon et une console portable, hein, évidemment. Et ben, est-ce que c'était avantageux ou pas? Et tant au niveau du chiffre d'affaires que du bénéfice, on se rend compte que avec la Switch uniquement, c'est aussi bien ou mieux que le meilleur de toutes les générations de Nintendo. On a ici des chiffres sur alors la NES, la SNES plus la Game Boy, la N64 plus la Game Boy Color, la GameCube plus la GBA, la Wii plus la DS, la Wii U plus la 3DS, et puis sur la dernière colonne, on a la Switch seule. Et ce qu'on constate, c'est que la Switch seule fait aussi bien que le meilleur de l'historique, c'est-à-dire la Wii plus la DS, et qui était à peu près au double des meilleures années précédentes, qui étaient à peu près, on parle en millions d'euros, hein, de chiffre d'affaires, et on est à 50 000 millions, donc 50 milliards, je crois, hein, l'échelle importe peu, on est aussi bon que le meilleur, voire meilleur, c'est-à-dire qu'en bénéfice, on a des bénéfices qui sont à 14 000 millions, 14 milliards sur la Switch, contre 13 sur la génération Wii plus DS. Donc en bénéfice, on est même meilleur que ce qu'on avait fait de meilleur avant. C'est vraiment la confirmation que cette stratégie de Nintendo de se concentrer sur une console plutôt que deux fonctionne. Alors c'est peut-être exceptionnel parce que la Switch a un succès exceptionnel, on ne sait pas si ça pourrait fonctionner avec une nouvelle génération de Switch, mais là ça semble indiquer quand même que non seulement au niveau des ventes et des résultats commerciaux, peut-être même que le fait pour la société elle-même de se concentrer dans le développement de jeux sur une machine plutôt que deux lui permet de connaître un succès qui est meilleur qu'à l'époque où ils devaient diviser leur attention. Et puis, on note aussi que Nintendo, c'est Furukawa, le président maintenant, a mentionné le fait que la prochaine console, bah, ils y pensaient beaucoup. Il a dit concrètement aux investisseurs et aux journalistes, c'est un « major concern », donc c'est un sujet de préoccupation majeur. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas que ça leur pose des problèmes, mais ils y réfléchissent beaucoup, beaucoup. Et évidemment, hein, on le savait, mais là, comme on le disait la semaine dernière, ils arrivent dans la sixième année de la console Switch, ils pensent à la suite et ils savent bien qu'il ne faut pas oublier tous les possesseurs de Switch. Enfin bon, bref, ils y pensent très très fort. C'est assez normal et on s'en doutait. Donc voilà, ce qu'on retient pour Sony et Nintendo, c'est que bah, la pénurie de composants, qui devrait d'ailleurs durer jusqu'à 2024, on pense maintenant, bah, les affecte beaucoup. Et on ose à peine imaginer ce que ça serait s'ils pouvaient vendre autant de consoles qu'ils le voulaient, quoi. Ça, c'est la grande occasion manquée, comme je disais, en particulier pour Sony, hein. Nintendo continue à en vendre, je crois que c'est quelque chose comme une vingtaine de millions, peut-être un petit peu moins pour les Switch. Rien que sur le quatrième trimestre, ils en ont vendu un peu plus de 4 millions. Donc, on a quand même des gros chiffres. Chez Sony, sur le quatrième trimestre, ils en ont vendu que 2 millions. Hein, donc, il y a vraiment un gros problème d'approvisionnement de leur côté. Et c'est ça qu'on retient, même s'ils vont très bien, ils font des années records. Et du coup, les années records, bah, c'est un petit peu la même chose du côté des développeurs. On a eu les résultats de Capcom, Bandai Namco et Electronic Arts. Et bah, c'est un petit peu la même chanson partout. tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors eux, ils n'ont pas le problème d'approvisionnement de puces, hein, puisqu'ils n'ont pas de matériel. Mais du côté de Capcom, année record. Du côté de Bandai Namco, année record. Et du côté de EA, eh ben, année record aussi. Les quelques petites choses à noter sur ces trois développeurs et éditeurs que j'ai retenus, moi. Du côté de Capcom, on est à une dynamique qui est comparable à celle qu'on avait. Quand je dis année record, ça veut, c'est pas forcément que c'est la meilleure année de leur histoire, hein, mais on est dans ces eaux-là. Dans le cas de Capcom, par exemple, la meilleure année, c'était avec Monster Hunter World à l'époque. C'était quoi, 2019, quelque chose comme ça. Et donc là, on est à peu près dans ces eaux-là. Mais eux, ils sont portés par Resident Evil 8, Monster Hunter Stories 2, Monster Hunter Rise qui est arrivé sur PC, etc., etc. Donc là, on est à des ordres d'idées qui sont un petit peu en dessous du milliard pour le chiffre d'affaires, pour l'année qui va de avril 2021 à mars 2022, et à peu près à 300 millions pour le bénéfice. Alors, quand on compte opérationnel ou net, ça change, bien sûr, mais moi, je ne suis pas comptable, je ne saurais pas vous dire exactement ce que ça change, mais en gros, le bénéfice net, c'est vraiment ce qui reste quand on a enlevé tous les frais à la fin de l'exercice fiscal, et ils sont à 237 millions, donc ça va. Du côté de Bandai Namco, on est dans le même ordre d'idées, plus ou moins, pour... Alors, vous allez voir que je compare à d'autres choses après, hein, mais dans le même ordre d'idées, puisqu'on est en centaines de millions pour le bénéfice net, on est à 675 millions, chiffre d'affaires quand même beaucoup plus important, de 6,4 milliards, mais il ne faut pas oublier que Bandai Namco, ils ont aussi beaucoup d'autres activités que le jeu vidéo. Et ce qu'il faut noter pour Bandai Namco, c'est que leur division de jeux vidéo est vraiment portée par Elden Ring, le succès qui est inattendu pour Elden Ring, puisqu'ils estimaient les objectifs de vente étaient à environ 4 millions d'exemplaires. Et en réalité, ils ont fini par faire... Ils sont aujourd'hui à 13,4, je crois, alors que le jeu est sorti en février, hein, bien sûr. Donc, c'est un succès absolument phénoménal pour Bandai Namco. Et ça a porté un petit peu leur division jeux vidéo, alors qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps. Et un autre truc à noter du côté de Bandai, c'est qu'ils ont fermé un nouveau jeu mobile Tales of Luminaria, qui était sorti en novembre. Donc, c'était un petit peu un gacha, hein, et malheureusement pour l'équipe de développement, ils ne pourront pas finir leur histoire, l'histoire du jeu, puisque bah, ça n'a pas marché du tout. Ils avaient déjà fermé Tales of Crestoria, qui était le précédent. Il y en a encore un qui traîne, hein, un Tales of, mais au Japon, c'est un petit peu un domaine, un truc particulier pour eux, mais... Tales of, du coup, Luminaria, n'aura duré que 6 mois et doit maintenant s'arrêter, enfin, il va s'arrêter en juin ou en juillet. C'est un nouvel échec pour Bandai Namco au niveau du mobile, ce qui est notable à un moment où le mobile est un petit peu en effervescence par ailleurs. Effervescence, j'exagère peut-être un petit peu, mais il y a beaucoup de gens qui tentent des choses pour le mobile. Et puis, on est du niveau... Le dernier truc que je voulais mentionner, c'était Electronic Arts, qui est un petit peu aligné sur Bandai Namco au niveau de la quantité de chiffre d'affaires. On est à 6,6 milliards chiffre d'affaires et puis bénéfice net 749 millions. Donc pour eux, ça va très bien aussi. On parle bien sûr pour tout ça de l'année fiscale... je l'ai mentionné, je crois, mais avril 2021, mars 2022. Donc, c'est une année fiscale d'un an. Et donc, pour EA, tout va très bien aussi. Ce que je note pour EA, c'est qu'ils sont, alors, d'une part, en train de repenser à la manière dont fonctionne Battlefield, c'est-à-dire qu'ils ont Battlefield 2042, ils ont dit, bah, on repart à zéro. Ils ont Battlefield Mobile, qui devrait arriver fin d'année, peut-être début d'année prochaine, qui est un gros morceau aussi, Apex Legends qui arrive la semaine prochaine, bien sûr. Ils ont annoncé un jeu Seigneur des Anneaux mobile et les héros de la Terre du Milieu. Alors ça, je vous avoue que je ne sais pas trop ce que ça va donner, hein. On verra. Ils ont des projets, bien sûr, hein, des projets comme le remake de Dead Space, ce genre de choses, les histoires dont on parlait avec FIFA. Mais ce que je note surtout, c'est l'importance que commence à prendre Vince Zampella de Respawn, développeur donc de Apex, anciennement de Infinity Ward, créateur de la série Call of Duty, Call of Duty Modern Warfare, etc. Ils sont partis suite à des désaccords violents avec Activision, mais l'importance que prend Vince Zampella chez EA semble se confirmer avec une influence notamment sur Battlefield, puisqu'elle a été mise en charge de Battlefield après le désastre, je pense qu'on peut le dire comme ça, de Battlefield 2042, et il repense la manière dont ils font les jeux. Il pense notamment à un truc qui était intéressant. Il disait, on veut que les gens, les joueurs, puissent arriver au fun un petit peu plus vite, quoi. Et je ne sais pas si ça conviendra aux joueurs de Battlefield, mais clairement, c'est une formule qui a marché pour Call of Duty. Je pense pas qu'ils vont transformer Battlefield en Call of Duty quand même, même si Zampella était sur Call of Duty, mais peut-être qu'il y aura une influence peut-être un peu positive sur les prochains Battlefield. On verra quand ils sortiront. Pour le moment, on n'a pas de date. Donc voilà, tout va bien pour les développeurs de jeux vidéo. Ils sont contents, et à vrai dire, en tant que joueur, on est plutôt contents aussi, puisque ça nous fait plus de jeux de meilleure qualité. Donc voilà pour les gros morceaux. Je vais en profiter pour vous rappeler le Patreon, hein, un petit peu rapidement. Vous savez ce que c'est le Patreon. Le Patreon, c'est le moyen de soutenir l'émission, de soutenir le rendez-vous de jeu. Si vous appréciez, si on passe de bons moments ensemble, si vous dites oh, « Cool, un petit rendez-vous de jeu, je vais passer un bon moment dans les transports où je vais pouvoir slacker au boulot et bosser, faire semblant de bosser en écoutant mon émission », eh bien, je vous encourage à aller sur patreon.com/rdvjeux, puisque c'est vraiment le gros pilier de l'émission financièrement. C'est comme ça qu'elle fonctionne, qu'elle est financée. C'est comme ça que je paye les couches de la tite et ce genre de choses. Donc, patreon.com/rdvjeux, je vous remercie très, très, très chaleureusement de participer cette communauté, puisqu'en plus, quand on fait partie de la communauté des Patriotes, on est des gens cool, on s'amuse sur le Discord, on est parfois dans le chat du Twitch quand je fais les émissions en live, c'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est souvent le cas, généralement le jeudi midi, et on est quelqu'un de cool et de sympa. Donc si vous voulez être quelqu'un de cool et de sympa et me payer un petit café, vous vous dites ouais, l'émission, le rendez-vous de jeu, ça vaut bien un petit café à Patrick, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux, le lien est dans les notes de l'émission.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Peut-être que je peux dire un petit mot sur Trek to Yomi avant de me lancer dans les petites news un petit peu plus rapides. Trek to Yomi, donc, c'est un jeu qui est disponible sur le Game Pass et qui est un jeu vraiment particulier. J'y ai joué un tout petit peu, je ne vais pas faire très long, je n'ai pas vraiment une légitimité à vous parler du jeu dans son ensemble, c'est juste des impressions, mais j'ai l'impression que les impressions, c'est ce qui compte le plus pour Trek to Yomi. C'est un jeu qui est assez simple dans son gameplay. On a un personnage qui est en... c'est même pas de la plateforme, on est sur un plan en 2D et puis on se bat avec une épée de samouraï. Et on a différents combos, différents mouvements bloqués, machin. Bon, ça, c'est super classique. Mais la raison pour laquelle le jeu est intéressant, c'est évidemment son esthétique. Je pense que vous avez vu les trailers de Trek to Yomi. Eh bien, on est vraiment dans la tentative de recréer une ambiance à la Kurosawa, encore plus que ce qu'on avait vu avec le mode Kurosawa dans Ghost of Tsushima. Mais on est presque, en fait, dans la recherche esthétique dans quelque chose qui est comparable à ce que faisait Cuphead avec les dessins animés c'était quand, les années 50, quelque chose comme ça. Donc là, on est vraiment, on sent que le développeur s'est dit, est-ce que je peux faire un truc comme ça, quoi ? Et le résultat est assez convaincant à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on est dans une ambiance qui rappelle, enfin qui fait plus que rappeler, qui invoque, n'exagérons pas, mais qui est plongé dans les films de Kurosawa, noir et blanc, avec plus même que le noir et blanc, le jeu d'acteur qui est super bon, les thèmes, l'imagerie, au-delà du noir et blanc avec vieille caméra, vieux cinéma. Vraiment l'imagerie, les thèmes, les relations entre les personnages, enfin on est vraiment là-dedans. Et du coup, de mon impression, c'est les films de Kurosawa, ça plaît pas à tout le monde. C'est quelque chose qu'on admire, mais qui est... alors je dis pas que tout doit être un film du MCU, hein, mais il y a quand même une sorte de déjà ils ont leur âge qui les marque, et puis un style qui est vraiment particulier, quoi. Et du coup, je dirais que c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Il est dans le Game Pass, donc ça vaut presque le coup de le télécharger juste pour voir. Et je crois pas, d'après tout ce que j'en ai entendu aussi, hein, donc ça confirme mon impression, je crois pas que le gameplay soit un truc qui vous motive à fond. Alors, il est pas très long, il fait 4-5 heures. Si vous avez le temps, peut-être que ça vaut le coup d'aller au bout. Mais ne serait-ce que pour l'impression d'y jouer, de voir, de savoir de quoi il en retourne, surtout si vous êtes abonné au Game Pass, ça peut valoir le coup, parce que esthétiquement... c'est quelque chose d'assez unique. Alors, on a beaucoup de jeux vidéo qui ont des recherches esthétiques particulières, mais là, on est vraiment dans, encore une fois, comme dans Cuphead, dans quelque chose qui est tellement recherché, tellement profond, que ça vaut le coup de le vivre un petit peu, au moins une demi-heure, une heure, pour voir de quoi il en retourne. Donc, Trek to Yomi, très particulier, Kurosawa, Japon médiéval, élève, maître, honneur, samouraï, bandit, c'est complètement ça, et c'est vraiment réussi pour l'entreprise dans laquelle ils sont lancés, quoi. Voilà pour ce à quoi j'ai eu un petit peu le temps de jouer cette semaine. Une série de petites news un peu plus rapides. D'abord, Gotham Knights, vous savez, c'est le jeu, le dernier jeu de la série... Alors non, c'est pas de la série des Arkham, mais enfin vraiment, on est pile là-dedans. Gotham Knights, qui doit sortir cette année, le 25 octobre, très précisément, eh ben, il a été annulé sur PlayStation 4 et Xbox One. C'est assez surprenant, parce que généralement, on a un problème de base installée, parce qu'en ne le sortant pas sur PlayStation 4 et Xbox One, il se coupe d'une énorme partie des joueurs. Alors, il sera sur PC aussi, hein, mais du coup, c'est PC, PS5, Xbox Series X et Series X et S. Et c'est étonnant de voir Warner Brothers, qui est quand même un développeur, éditeur, qui est, on le pense, dans la ligue des EA, Activision, machin, ils font ça pour l'argent, quoi. Alors, soit le jeu était vraiment, vraiment pas fonctionnel au niveau technique sur les consoles d'ancienne génération. Ils se sont dit, bon, on a vu des problèmes. Un petit peu de boisson pour s'hydrater la gorge. Combien de fois on a vu des problèmes avec des jeux qui tournaient pas sur ces machines, qui se sont rétamés, ça fait des scandales. On imagine que c'est ce contexte, quoi, parce que s'ils tournaient correctement, et Dieu sait qu'ils peuvent baisser l'écran des détails graphiques pour adapter aux consoles de génération précédente, et bien s'ils tournaient correctement, ils auraient sorti, quoi. Je ne vois pas pourquoi ils ne le sortiraient pas, donc ça doit être vraiment un jeu exigeant techniquement. En même temps, alors donc c'est vraiment notable, hein, le fait qu'il annule sur PS4 et Xbox One pour l'attitude commerciale d'un développeur-distributeur. Et puis à côté de ça, il y a un trailer qui est sorti, enfin une séquence de gameplay commenté qui est sorti pour le jeu au même moment, où il montre le gameplay de deux des quatre personnages. Et je dois avouer, vous savez que moi je suis client, hein, de ce genre de choses. Hein. Je suis vraiment fan des Batman Arkham, des jeux open world, monde ouvert, de ce type-là, action, troisième personne, système de combat à la Batman, très facile, très arcade. Et en voyant les 13 minutes de gameplay, alors je vais pas vous dire que ça me plaît pas, ça me plaît, mais bon sang que c'est scolaire, quoi. C'est... Alors c'est... WB Games Montréal qui le développe, et c'est ceux qui avaient fait Arkham Origins, qui était lui aussi, qui n'était pas mauvais, mais enfin qui atteignait certainement pas le niveau d'excellence des précédents Arkham. Et là, j'ai pas besoin que chaque jeu réinvente le fil à couper le beurre, mais en le voyant sur les 13 minutes, j'ai l'impression que n'importe quel joueur qui a joué aux Arkham précédents aurait pu établir 100% de ce qu'on voit dans le trailer. Mais 100%, c'est du super classique. On a de l'exploration de l'open world avec différents artifices. On a deux personnages, hein, donc Nightwing et Red Hood, qui se déplacent avec différents moyens dans l'ensemble de la ville. Puis ils vont voir des malfaiteurs en train de malfaiter, en train de mal faire, et ils vont les attaquer. Et puis il y a le système de combat à la Batman, et puis il y a des phases un petit peu stealth, et puis il y a c'est complètement l'open world de ce type-là à 100%, avec la petite nouveauté quand même, facteur différenciant, qui est qu'on peut jouer à deux en coop. Ça a l'air cool, et puis ça a l'air de bien tenir la route aussi, hein. Mais le combat qu'ils ont montré de Nightwing, ça avait l'air très classique, un petit peu Batman. Le combat de Red Hood, il a des flingues qui tirent des balles non létales. Ok, d'accord. Enfin bon, c'est comme le véhicule de Batman dans Arkham Knight à l'époque. Il électrocute les gens, donc il ne les tue pas. Ok, très bien. Mais là, il a quand même des flingues un petit peu à la Devil May Cry. Sauf que il a juste les flingues, il saute pas en l'air, il tape pas avec son épée, c'est juste les flingues. Ça a l'air bon. Voilà, je veux pas le juger le jeu avant que de l'avoir eu entre les mains. Je pense que ça me plaira, mais c'est hyper classique à un niveau qui moi me fait mettre une petite pause, quoi. Bon, voilà pour Gotham Knights. Vous aimez Godzilla et King Kong, et ben il y a un event dans Warzone qui inclut Godzilla et King Kong. C'est l'event Monarch, qui est un partenariat avec le film du même nom, Godzilla vs Kong, qui était sorti il y a un an déjà, qui était un bon délire, comme souvent ce genre de film. Et ça confirme qu'on a, alors ça va durer 2 semaines environ, ça confirme qu'on a effectivement Godzilla et King Kong sur la map de Call of Duty Warzone, ce que moi je trouve formidable. J'espère que j'aurai le temps de le lancer à un moment pour voir ça, et on peut appeler, alors on peut soit se battre contre eux un petit peu pour leur faire autant de dégâts que possible, évidemment on va pas les faire tomber, hein, mais après du coup on peut appeler leur pouvoir dans notre partie de Battle Royale, dans la même partie, ceux qui ont fait le plus de dégâts vont pouvoir appeler le laser de Godzilla ou les coups de patte de King Kong. Enfin, ça a l'air super marrant, complètement n'importe quoi. J'essaierai de m'y essayer un petit peu. Lego a annoncé un jeu. Alors, annoncé pas tout fait, hein, mais c'est un jeu Lego Smash qui va arriver cet été. Il était, si je ne me trompe pas, déjà disponible sur mobile depuis quelques temps, mais peut-être qu'il fera partie de ces jeux mobiles qui connaîtront une seconde vie en arrivant sur PC et console. Là, on est un petit peu partout, hein. Il n'arrive pas sur console, autant pour moi. C'est Switch, Xbox One X, enfin One et Series, PS4, PS5. Il arrive cet été, et c'est marrant parce que, du coup, Lego, c'est un univers parfait pour ce genre de jeu, en plus avec la customisation des personnages qui est infini avec des trucs Lego. Alors, je ne sais pas s'il y a encore de la place pour un nouveau Smash-like, mais bon, Lego Brawls arrive cet été sur toutes ces plateformes. C'est plutôt rigolo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Le jeu Avatar de Ubisoft est toujours prévu pour cette année. Alors, on en entendra peut-être parler à l'E3 qui n'est pas l'E3, les confs de l'été. Ça semble même probable, hein, parce que s'il confirme encore qu'il est prévu cette année, il serait temps d'en parler un petit peu plus, de montrer de quoi il s'agit. Évidemment, je pense qu'ils exigent une sortie cette année, parce qu'il y a Avatar 2 qui sort cette année aussi. Et c'est une opportunité marketing difficile à rater, hein, un truc comme ça. On devrait aussi entendre parler de Final Fantasy XVI, enfin, puisque il semble qu'il soit presque fini. Il est prêt d'être fini. Et il y a un trailer qui arrive bientôt. Et du coup, bah, un trailer qui arrive bientôt, on pense évidemment à la conf, on peut imaginer la conf Sony, des confs de l'été. Donc là, dans quelques semaines, quoi, ça arrive, quoi, 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc enfin, des infos sur Final Fantasy XVI. NetEase Games va aussi faire sa conférence. Là, c'est bientôt, hein, c'est la semaine prochaine, c'est le 20 mai. Et une conférence NetEase, évidemment, c'est important. C'est l'un des plus gros créateurs de jeux vidéo, très concentré sur l'Asie hein, quand même. Il y a notamment, enfin leur gros succès de ces derniers temps, c'est Naraka Blade Point, qui est un battle royale à armes de mêlée, donc épée, couteau, etc. Et c'est un gros jeu sur Steam cette année. Mais ils ont aussi engagé ou débauché des gros créateurs japonais. Je ne vais pas vous mentionner les noms, mais vous vous en souvenez peut-être. Donc, il y a ça qui compte aussi. Et puis, contrairement à ce qu'on disait la semaine dernière, ils sont vraiment en train de s'implanter en propre en Occident aussi. Il y a différents studios comme NetEase Games Montréal et un studio qui vient d'être annoncé qui est Jackalope Games, qui sont des studios de NetEase qui sont situés en Occident. Donc, la semaine dernière, on disait que, à propos de la vente de Eidos à Embracer, on disait bah les studios, les gros acteurs chinois, ils prennent plutôt des participations plutôt que de racheter des studios en entier ou de s'implémenter en Occident. Bah là, peut-être qu'ils sont à une étape, en tout cas pour NetEase, où ils sont prêts vraiment à s'implanter eux-mêmes. Bon, j'imagine que la conférence annuelle là le 20 mai, elle sera pas folle parce qu'ils sont pas encore à un stade où ils peuvent montrer des trucs qui nous intéresserait énormément, mais qui sait, on verra. Et puis peut-être que les années prochaines, ça sera un petit peu plus le cas. Encore quelques news rapides. Le mode facile de Sifu est enfin arrivé. Donc si vous aviez testé Sifu et que vous aviez été rebuté par la difficulté, vous pouvez y retourner et jouer en mode facile. Vous pourrez voir la majesté esthétique de ce jeu-là. Donc, si vous l'avez dans votre catalogue, c'est peut-être le moment d'y retourner. Et je voulais mentionner quand même l'échec retentissant de Babylon's Fall, pour lequel il y a eu, à un moment, il y a quelques jours, un seul joueur connecté. Alors sur PC hein, spécifiquement, mais pour ce jeu alors édité par Square mais développé par Platinum, voilà, j'y arrive. C'est un échec retentissant et c'est encore un exemple du fait que bah, les jeux services, tu t'inventes pas créateur de jeux services. Alors on a beaucoup mentionné avec Avengers, mais c'est que un exemple parmi beaucoup. On pourrait parler de Halo Infinite, qui encore avec sa saison 2, les développeurs doivent s'excuser de... Alors c'est un petit peu bumpy le lancement de cette saison 2, il n'y a que 2 nouvelles cartes, il y a un mode qui est sur une seule carte, il y a... C'est vraiment la confirmation que le jeu service, bah, c'est pas si facile que ça. C'est pas tu mets des jeux avec un petit peu de contenu en plus et puis l'argent rentre. Ça me fait penser un peu au développement de MMORPG au milieu des années 2000, début 2010 plutôt, où tous les développeurs se disaient « Oh, regardez, World of Warcraft, ça marche super bien, on va en faire un aussi. » Ils sont tous plantés les uns après les autres. Enfin, bon, tous plantés, pas vraiment, hein, parce qu'il y en a qui fonctionnent encore et certains même bien. Mais simplement, bah, tu ne peux pas décider que tu vas le faire et que ça va marcher. Et là, c'est une leçon que sont en train d'apprendre des développeurs pour le domaine du jeu service. Et dans le cas de Babylon's Fall, il y avait à un moment un joueur, c'est marrant parce qu'il a tweeté, il a dit « Oui, c'est bien moi, j'y joue, c'est moi qui suis le seul joueur sur Babylon's Fall ». C'était plutôt rigolo. Et puis, le Summer Games Fest va faire son keynote d'introduction le 9 juin, donc le lancement des confs de l'été, ça sera le 9 juin. Comme je le disais, ça arrive vraiment bientôt, très très vite. Et puis, dernière note, il y a une vidéo des capacités, des possibilités de l'Unreal Engine 5 qui est hyper impressionnante, qui a beaucoup tourné sur Twitter et Facebook, qui est une vidéo d'un développeur japonais qui a modélisé une station de train au Japon et qu'il a modélisé d'une manière qui est tellement impressionnante, c'est vraiment photoréaliste. Et c'est hyper intéressant parce que il le filme un petit peu en mode bah, j'ai mon appareil photo, enfin mon téléphone, et je filme moi qui suis dans cette station. Et franchement, si vous ne savez pas que c'est une démo d'un jeu, enfin en image de synthèse, jamais vous pourrez dire que c'est pas vrai. C'est vraiment impossible. L'éclairage est incroyable, les détails sont incroyables, les textures sont folles, enfin vraiment. Et au milieu de la vidéo, ça, c'est vraiment le jour, hein. On a le grand soleil, machin, et tout à coup, au milieu de la vidéo, toutes les lumières disparaissent et on passe en nuit. Mais vraiment au milieu. Et c'est à ce moment qu'on se dit, mais oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Et en nuit, bah, du coup, c'est la nuit partout, très sombre, avec l'éclairage au néon, et ça fait penser à un jeu d'horreur, un Silent Hill, un truc comme ça. Et c'est hyper impressionnant d'un point de vue réalisme. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tous les jeux ressembleront à ça, parce que là, c'est l'environnement très contraint, restreint d'une démo, donc c'est un petit peu particulier. Mais ça donne un petit peu une ouverture sur ce que pourront être les jeux peut-être en fin de génération ou sur la génération suivante. On arrive à des niveaux de photoréalisme qui sont absolument saisissants. Si vous voulez trouver les vidéos, je vais vous dire, enfin vous voyez Unreal Engine 5, Train Station, je dis métro, c'est pas un métro, c'est un train, c'est Echu Diamond Station. Donc Echu Diamond Station, vous cherchez ça et vous le trouverez très facilement. Vous venez demander dans le Discord, hein, si quelqu'un peut vous la linker, sûr que quelqu'un le fera, le lien vers le Discord est sur les notepatrick.com ou même dans les notes de l'émission, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, on s'y amuse bien. Et voilà, c'est tout pour cet épisode un petit peu particulier, un petit peu spécial. J'espère que vous avez passé un bon moment, une bonne petite heure en ma compagnie. La semaine prochaine, on sera de retour à la normalité. On revient aux épisodes normaux. Alors, le rendez-vous tech, pas tout à fait parce qu'on enregistre le lundi soir, mais je ferai peut-être un truc en live le mardi midi sur Twitch, en remplacement de l'enregistrement de l'émission elle-même. Mais le rendez-vous jeu, ça sera jeudi midi sur Twitch, à moins qu'il y ait une catastrophe, hein, on ne sait jamais. Mais donc, on sera de retour à la normale. Dites-moi sur Twitter ou sur le Discord si ça vous a plu, cette petite émission avec juste moi dans vos oreilles, en intime, juste tous les deux. Alors, c'est pas un truc que je ferai souvent, hein, mais peut-être que de temps en temps, par la force des choses, je serai amené à le faire. Dites-moi si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment, ce que vous avez aimé, ce que vous avez peut-être un petit peu moins aimé. C'est toujours bon à prendre, les retours. Et puis, on se retrouve du coup dans une semaine. Entre-temps, n'oubliez pas le Discord, bien sûr, Twitch jeudi midi pour l'enregistrement en live. Et puis, évidemment, le Patreon, patreon.com/rdvjeu. Si vous voulez me payer un petit café, un petit sandwich, qui sait, peut-être que vous voulez me payer un bon repas au restaurant, c'est possible aussi. Mais déjà, un petit café, ça fait très, très plaisir. Et puis, ça sert, hein, y a pas de comment dire. Il n'y a pas de petits profits, il n'y a pas de petites contributions. Donc, si vous appréciez l'émission, patreon.com/rdvjeu. Je vous fais de grosses, grosses bises à tous et toutes et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Un petit peu de bisous à ASMR. Ciao à tous et à toutes. C'est pas que je voulais dire à toutes en ASMR. Je voulais dire en fait, ciao à tous. Et à tous et à toutes, au revoir, à la semaine prochaine.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong? what's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.